D'abord génération anciens combattants, puis leur vin, les crâneurs, puis ce fut l'instant des...
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles qui vous accueille à 19h comme tous les mercredis avec la Conspiration des planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Et il sera question de classique cette semaine avec le mariage de Figaro de Beaumarchais, une nouvelle adaptation et réinterprétation et mise en scène de ce spectacle, de cette pièce, en spectacle en ce moment au Théâtre Royal du Parc. Elisabeth nous en parlera dans quelques instants. Et puis nous parlerons de la rencontre et des histoires de famille de deux grandes comédiennes de nos scènes. On ira voir du côté de chez elle, et elle c'est Valérie Beauchaud et Magali Pinglot et Isabelle Pousseur à la baguette de la mise en scène. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Nico.
En duplex, voilà, après, sur le terrain évidemment, hein, Elisabeth. Alors Elisabeth, on va commencer tout de suite avec toi parce que tu es allée voir pour nous ce mariage de Figaro mise en scène par Dominique Seron au Théâtre du Parc.
Oui, alors c'est tout un programme hein, quand même, le mariage de Figaro. Alors c'est le deuxième volet d'une trilogie qui est à peu près ce qui constitue l'œuvre théâtrale de Beaumarchais. Beaumarchais qui est un personnage historique et vraiment un personnage du 18e là, qui nous a laissé notamment les droits d'auteur, hein, donc c'est pas rien, il a laissé des traces. On parle de lui aussi comme journaliste, comme ambassadeur, c'était aussi le fils d'un horloger. Enfin, c'est un personnage un peu complexe qui ressemble, je dirais, comme de Godot à son Figaro. Figaro dont on suit les aventures, ben, tout d'abord dans le Barbier de Séville, et puis dans le mariage de Figaro, qui est normalement un gros machin qui nous est proposé au parc.
Alors, cinq actes, hein, oui, je crois, hein, c'est ça, hein, normalement. Pardon ? Dans sa forme originale, cinq actes pour ce mariage de Figaro.
Tout à fait, en cinq actes. Et c'est en fait une pièce qui est écrite en 1778, créée deux, trois ans plus tard. Elle suit de trois ans ce fameux barbier. Et une des premières originalités, c'est que finalement, on retrouve les personnages d'une pièce à l'autre.
Un feuilleton, en quelque sorte. Une série.
Il y a un peu de ça. Il y a en tout cas l'évolution qui est assez courte sur trois ans. On retrouve une sorte de quatuor amoureux qu'on avait dans le Barbier de Séville. Il y avait Figaro et Suzanne d'un côté, puis le comte d'Almaviva et Rosine de l'autre. Alors, côté comte, l'intrigue se passe toujours en Espagne, ça ne change pas. Et le comte et Rosine sont bel et bien mariés. Suzanne et Figaro sont à leur service et
ils sont sur le point de se marier.
Et ils sont sur le point de se marier, c'est même le jour, le matin de leur mariage, mais ça va être un matin un peu foireux. La pièce s'appelle aussi La folle journée. Donc on comprend vite que c'est une comédie qui est basée sur tout l'art des quiproquos, des intrigues qui sont nouées, tricotées, retricotées, et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça, des dénouements tout à fait inattendus. Donc il y a vraiment un art de la comédie qui est là. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que c'est un classique, mais un classique du 18e. Mais c'est quand même un classique qui laisse poindre des choses qui nous sont totalement contemporaines. On a dans ce spectacle, notamment le personnage de Chérubin, qui est en fait un jeune ado qui est... très très libre, on peut presque le traiter de libertaire, puisqu'il se laisse un peu faire, il est amoureux de l'une, et puis de l'autre, et puis de l'autre, et puis finalement, ben, il est plaisant, et puis est-ce qu'on ne va pas le travestir un petit peu? Donc on a quand même déjà une petite problématique qui arrive là. Alors ce
Des
qui est aussi par...
quiproquos, oui, c'est ça en
Oui,
fait.
des
Oui.
quiproquos, mais on sent ce personnage reste totalement étonnant et à la fois important et totalement secondaire, mais voilà, il est ce qu'il est, il traverse un peu, c'est vraiment le petit gars qui va se caler derrière les fauteuils, qui entend ce qu'il ne devrait pas, qui est chassé, mais qui rentre par la fenêtre, et puis, et tout ça, mais c'est un personnage très moderne aussi dans sa liberté. Et donc, on a à côté de ça... Ben, il y a quand même aussi le comte qui finalement se déjà lassé après 3 ans de sa femme, hein, qu'il avait mis tellement d'ardeur à conquérir. Donc, est-ce que l'amour, c'est bien?
L'amour
Est-ce que
dure
ça...
3 ans ou moins ou plus, voilà, c'est la
Oh, ben
question.
voilà, il y a des théories qui circulent, on ne va pas s'y appesantir. Mais bon, on a aussi un comte qui est bien décidé de profiter une dernière fois de son droit de cuissage et jette son dévolu sur Suzanne.
Ah,
Suzanne qui est quand
la
même promise
promise
à
de
Figaro,
Figaro,
mais
oui.
Figaro, attention, elle est dans l'œil de, il est dans l'œil de qui? Mais de Marceline. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça part comme ça. On a quelques personnages et tout qui s'entremêlent. Mais on sent aussi que c'est une pièce où il y a quand même une critique aussi. On sent aussi que Figaro, c'est quand même quelqu'un qui veut y arriver par le mérite aussi. Donc, c'est pas juste parce que... le conte, bah, ça lui suffit pas d'être né en fait. Hein. On a un moment.
C'est un peu le poil à gratter des corps institués, en fait, hein, pour l'époque. Figaro, il vient bousculer évidemment l'aristocratie
Oui, mais
du
on sent
comte
qu'il y a
Almaviva.
quelque chose de neuf qui va arriver. Il y a vraiment quelque chose qui affleure là et qui est en prémisse aussi. On parle aussi du harcèlement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, on a un texte à la fois très très dense. On a des personnages bah, qui sont à la fois des types, puisqu'il y a quand même à la base les servants d'un côté et puis les maîtres de l'autre, mais ça se confond un peu, ça s'entend quand même aussi très bien quand il faut, d'autre part. On a des personnages plus secondaires qui sont aussi des personnages récurrents par rapport au barbier. Et Dominique Seron a réussi, je pense, à faire que ce texte qui est copieux, nous soit complètement accessible et complètement lisible, et que même si les intrigues, ben, elles sont nombreuses vers la fin, parce que bah ben, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a encore ça, mais voilà, c'est pas grave, on arrive à suivre parce
Il y a donc une adaptation d'un texte qui
que
reste original dans ce qui nous est livré, mais peut-être un petit peu allégé, on va dire,
Oui, mais surtout à la fois on nous le donne à l'entendre et
et
je pense qu'effectivement, probablement qu'on l'a débarrassé peut-être de frioritures, qu'on n'a pas surchargé non plus, ça
OK.
fonctionne avec 9 comédiens, 9 personnages. Et ce qui est très important aussi dans ce qui est proposé, ça fait, je pense, un des éléments importants de ce spectacle et de cette proposition, c'est que, en fait, il y a la musicalité de la langue qui est très présente. Et puis qu'il y a aussi une musicalité qui est en fait une porte ouverte vers ce que d'autres ont fait de cette pièce-là, puisqu'on sait que ben, Mozart s'en est emparé, d'autres aussi, il y a eu beaucoup d'adaptations, donc on a eu beaucoup de partitions lyriques. Et Dominique Seron fait les choses très simplement, ce sont les comédiens qui tout d'un coup et sans crier gare, se mettent à chanter. Et pour ça, elle a deux atouts dans sa distribution, qui est une comédienne dont j'avais un peu perdu la trace, mais dont je me souviens très bien d'il y a une trentaine d'années, ce qui est Pascale Vivert, qui a la particularité d'être non seulement une comédienne, mais d'être aussi une chanteuse et une musicienne accomplie. Et donc, par moments, elle sort de son rôle, elle vient jouer quelques notes au piano, elle se met à chanter. Il y a également dans la distribution une jeune pousse, hein, quand même, qui est Romane Lambert, qui elle est une chanteuse lyrique et qui a un tout petit rôle qui est là, elle assume le rôle, mais elle assume aussi une partition lyrique en fait. Ce qui fait qu'on a des respirations qui arrivent dans le texte rapidement. Et je pense que ça contribue fort à rendre cette intrigue qui est quand même un peu copieuse, qui va un peu dans tous les sens, où il y a des moments où il y a des tirades, quand même des choses à écouter. mais que ça passe. Et ce qui est important aussi, c'est la scénographie, en fait, parce que c'est totalement simple. Il y a un parquet en marqueterie qui est magnifique, qui est tout simple, qui va nous délimiter un espace. Et je cherche le nom de la scénographe, donc Claire Farah. Et ce parquet fait tout. Il y a une porte, mais on voit juste la porte. Et on peut être dans la chambre de Figaro et de Suzanne, dans la chambre de la comtesse. On peut être dans le salon. Il y a un moment donné où il y a un procès qui va avoir lieu. On écarte le plancher. En fait, c'est à la fois subtil et c'est fait à vue aussi. Ce sont les comédiens qui bougent le décor de manière très simple.
Alors,
Donc, voilà.
justement, les comédiens, tu as parlé déjà de la distribution plutôt féminine, mais parlons aussi, qui est le comte Almaviva? C'est un habitué de chez Dominique Seron, c'est Laurent Capelluto.
Oui, voilà, qui s'acquitte fort bien de ce rôle un peu ingrat, hein, puisqu'il a.
Et qui est Figaro? Ça, c'est quand même toujours important. C'est Félix Van Orenberg,
Voilà, qui est
fidèle
dramatique
à lui-même.
Figaro. Oui, tout à fait. C'est quand même la sœur de Jésus-Christ, on ne va pas l'oublier. Mais c'est quelqu'un qui, je trouve, a une justesse absolue et qui arrive à donner, à faire de ce Figaro. Il n'en fait pas des tonnes. Il est juste Figaro. Il est juste lui-même. Il est juste ce personnage qui va changer un peu la donne dans un siècle et tout. Mais donc, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la justesse en fait de son interprétation.
On complète la distribution avec Elfriede Ursen, Vincent Huertas, Corentin Ligny, Luc Van Gruderbeek, Laure Vogler. Viennent rejoindre donc Pascal Vivert, Romain Lambert, Laurent Capelluto et Félix Van Orenberg dans cette mise en scène de
Voilà.
Dominique Seron, Le mariage de Figaro. C'est à voir jusqu'au 18 avril au Théâtre
Oui,
Royal du
alors
Parc.
méfiez-vous quand même, il y a déjà des listes d'attente, mais bon, tentez votre chance, c'est pas une petite salle non plus, hein.
C'est joyeux, c'est musical, c'est
Voilà.
moins léger qu'il n'y paraît dans le propos. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce mariage de Figaro au parc. On viendra sur une autre création après la pause musicale. Moi, je vais d'abord vous
Bien sûr.
parler d'une reprise qui arrive du côté du théâtre Les Tanneurs, avec le collectif Zouf qui reprend son mythique Moutouf, spectacle ben, qui suit un petit peu et retrace le parcours de ces enfants d'expatriés marocains, de ces immigrés marocains, papa marocain et maman belge. Et c'est ça qui fait toute la
Oui, qui font
particularité de ce
l'unité
spectacle,
du spectacle.
ben, d'être partagé entre deux mondes. Donc, c'est comment ces cinq Belges qui ont un père marocain ben, ont vécu cette double nationalité, puisqu'on ne perd jamais la nationalité marocaine, et comment sont mariées les cultures dans la cour de récré, mais aussi dans les maisons, dans les foyers. C'est très touchant, c'est hyper dynamique, c'est hyper vivace, c'est
C'est vrai que c'est
virevoltant.
un spectacle qui tourne depuis longtemps et on ne s'en lasse pas et c'est vrai qu'on irait bien le revoir.
Et on retrouvera donc Myriam Akhediou, Yasmina Douyeb, Monia Douyeb, Hakim Loukman, Othmane Moumen, mise en scène par Yasmina Douyeb, ce collectif Zouf qu'on aura le plaisir de revoir donc au théâtre Les Tanneurs. Ce sera du 31 mars au 1er avril, juste deux séances. Donc n'hésitez pas à aller voir pour les places disponibles sur le site www.letanner.be. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve
Volontiers.
juste après Stella Donnelly.
Come over.
Philly Change, c'était Stena Donnelly que l'on écoute à l'instant sur Radio Campus. Elle viendra présenter son nouvel album Love and Fortune. Ce sera ce dimanche au Botanique, ce 29 mars donc, www.botanique.be. Elle est australienne et on la connaît déjà depuis 2019 sur le label Secretly Canadian. On est de retour sur Radio Campus dans la conspiration des planches avec Elisabeth, toujours avec nous. Ça va, Elisabeth ?
Ça va.
Alors, à mon tour de parler d'une création de cette semaine. Ça a commencé hier au Théâtre National. Ça s'appelle « Du côté de chez elle » avec un S à L entre parenthèses parce qu'elles sont bien pourtant plusieurs. Plusieurs sur scène d'abord et plusieurs à la manœuvre de ce spectacle. C'est Isabelle Pousseur qui met en scène la fausse rencontre entre Magali Pinglot et Valérie Beauchaud puisque toutes les trois se connaissent depuis longtemps. Magali Pinglot a joué pour Isabelle Pousseur, Valérie Beauchaud est une bonne amie de Magali Pinglot. Bref, les trois copines, elles ont voulu monter un spectacle ensemble pour parler d'elles et surtout de Magali Pinglot et de Valérie Beauchaud qui, toutes les deux sur scène, vont faire se croiser leur parcours, des parcours contrastés puisque nous avons d'un côté Valérie Beauchaud, issue d'une famille de l'aristocratie belge, mais en rupture avec sa famille aux valeurs très traditionnalistes, très conservatrices. On y reviendra un petit peu plus tard. Et de l'autre côté, Magali Pinglot, française, issue d'une famille d'instituteurs communistes du Berry, donc du centre de la France. Et c'est avec elle que commence ce spectacle qui nous raconte et qui nous plante un petit peu le décor de ce petit village du Cher où maman est directrice et institutrice à l'école des filles, l'école de la République, bien évidemment. Et papa est instituteur à l'école des garçons. Et dans ce village, il y a des cafés, il y a aussi surtout une rivière qui traverse ce village et qui sera le décor de l'enfance de Magali Pinglot, en plus d'écouter toutes ces discussions politiques de ses parents fortement impliqués dans la cause communiste. Elle décrit une sorte presque de carte postale, d'image d'Épinal, de village où tout le monde se parle, où tout le monde s'accueille les uns chez les autres pour parler politique, mais pour parler aussi de plein de choses. Bref, d'une ambiance plutôt chaleureuse, en fait, d'un foyer où la connaissance est mise au centre, où l'acquisition et la transmission de la connaissance est un pilier de la vie et un pilier du futur aussi auquel les parents aimeraient bien voir se destiner Magali Pinglot, mais qui, elle, finalement, ne choisira pas la voie de l'enseignement puisqu'elle choisira la voie des arts de la scène et de la scène.
Est-ce que cette rencontre fictive est située dans le temps, en fait, parce que tu nous décris un village, on a envie d'y aller, d'aller boire son pastis là-bas.
Alors, on les rencontre, elles se connaissent déjà, j'ai envie de dire, puisque les récits se mêlent d'abord donc, avec un plateau divisé. À droite, on ne s'invente pas le foyer du château de la famille de Valérie Beauchaud, j'y reviendrai. Et de l'autre côté, la salle à manger, cuisine avec tableau d'instituteurs de notre famille communiste. Et on va voir que chacune d'entre elles vont jouer un petit peu à un très court instant pour faire la transition entre leurs deux histoires, comme si elles allaient rendre visite à la famille de l'autre, pour planter le décor. Et c'est évidemment la table qui est au centre, puisque de l'autre côté, dans l'intérieur aristocratique du château d'Archène, où la famille de Valérie Beauchaud loge et où elle a grandi, cette grande table monumentale avec les trophées de chasse au mur et les grands tableaux en face, eh bien, ça impose tout à fait une autre ambiance, une table où on ne parle pas, où on ne se parle pas, où on regarde son assiette et on choisit bien les couverts que l'on utilise pour la partie du repas que l'on est en train de déguster. Et c'est déjà une très très belle manière, je trouve, de planter le décor et les ambiances. Et ces deux comédiennes, au fur et à mesure de leur récit, elles vont parler de leur père surtout, un peu des frères également, voir un petit peu parler des ruptures qui se sont un petit peu posées dans leur vie et comment elles se sont trouvées en rupture l'une de l'autre jusqu'à sentir être des traîtresses à leur famille et comment vivre avec ça. Ça se ressent beaucoup plus peut-être chez Valérie Beauchaud qui se dit être à gauche et à gauche de, en tout cas plus à gauche que sa famille et aussi de qui vient questionner l'origine de la richesse de sa famille. Un père qui a été diplomate, haut fonctionnaire du Congo belge et aussi qui, lors de l'indépendance du Congo, est resté là-bas pour être un acteur important des institutions financières du Katanga et puis du Zaïre sous l'ère Mobutu. Et donc, avec un grand sentiment de culpabilité de la part de Valérie Beauchaud, ou en tout cas de difficulté d'assumer cet héritage, puisque ce château est devenu. Elle l'exècre maintenant, puisqu'il est un petit peu.
Comment est-ce que sur le plateau ça se passe? Est-ce qu'elle dialogue entre elles? Est-ce qu'elle se raconte simplement?
Elle dialogue entre elles et en même temps, leur récit ne se croise pas toujours. Elle laisse en fait assez intelligemment les spectateurs faire les ponts, parce que quand c'est très. C'est très contrasté au départ, c'est presque caricatural. En effet, ces deux photos, ben, elles vont se rejoindre à un moment donné et dire que, en utilisant les propos d'Édouard Louis, mais aussi d'autres auteurs qui ont travaillé sur ces questions familiales, sur ces transfuges de classe également, sur tout ce que les traumas familiaux peut occasionner en nous et comment on doit se battre avec ça, eh bien, elles le mettent finalement sur une table qui réunit les deux lors d'un changement de décor où la table va être au milieu du plateau. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, dans ce spectacle, c'est qu'elles vont se rendre compte toutes les deux que la vraie solution à leurs problèmes, elle se cache dans les histoires qui ne se sont pas dites. Pas racontées, et ça va peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas, ce sont l'histoire des femmes, l'histoire des mères, et l'histoire des mères choisies également, parce que toutes les deux, il y a une figure féminine qui a compté pour elles, chacune de leur côté, une grand-mère d'un côté, une domestique de l'autre côté, qui a servi la famille de Valérie Beauchaud, et qui vont être des femmes au passé complètement effacées, et elles vont essayer de leur re-raconter comme pour se réinvestir dans une histoire familiale qui ne leur a pas été confiée finalement. Et aussi parler de leur mère. Et là, on découvre un grand talent de conteuse, on le savait déjà chez Magali Pinglot, qui a une voix, une diction absolument magnifique, et une énergie et une sincérité absolument désarmantes de Valérie Beauchaud, dans une mise en scène d'Isabelle Pousseur qui, par petites touches, vient un petit peu... organisé comment ces récits nous sont livrés. Je ne m'étalerai pas sur... Parfois, je trouve quelques petites maladresses de mise en scène. Il y a aussi un quatrième regard, c'est celui de Jean-Baptiste Delcourt, qui est venu avec un regard extérieur au trio, donner sa patte et donner son avis également pour que naisse le récit, mais surtout ses enseignements, leurs enseignements, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des récits et c'est vraiment des histoires assez intéressantes et assez touchantes sur les altérités et sur comment on se défait et finalement, est-ce qu'on sait se défaire de ces histoires totalement, puisqu'elles nous constituent aussi. C'est un peu la grande question de Valérie Beauchaud. Puis-je faire sécession avec cette histoire? Mais d'un côté, j'y participe encore. Donc, c'est ça un petit peu les assignations aussi qui sont terribles sociales.
Est-ce qu'il y a une dimension qui fait qu'on peut se poser des questions par rapport à aujourd'hui, puisqu'on on a quand même des changements entre le clivage droite-gauche qui n'est plus tout à fait celui d'il y a 40-50 ans.
Est-ce que... je dirais moins sur ce clivage-là, c'est qu'elles vont chercher les ponts ailleurs dans... on peut dire, un récit plus féministe ou en tout cas des regards plus féminins, parce que en effet, les pères sont hyper importants. Le communisme aussi a eu ses dérives patriarcales très fortes. Le père était la figure centrale du côté de chez Valérie Beauchaud. Bref, et aussi de dire que finalement, le théâtre les a réunis, finalement. Et c'est aussi une grande question sur faire théâtre et pourquoi faire théâtre, finalement, et comment faire théâtre de sa matière familiale. Je veux dire, c'est pas neuf, mais en tout cas, c'est un nouvel exemple assez enlevé et assez touchant que nous proposent Magali Pinglot et Valérie Beauchaud, mise en scène par Isabelle Pousseur, dans Du côté de chez elle. Pardon ?
Jolie proposition.
Oui, et c'est à voir jusqu'au 3 avril au Théâtre National. C'est dans le studio www.theatrenational.be. Encore un spectacle peut-être à vous proposer pour la fin de cette semaine, un spectacle que je n'ai pas vu, que nous n'avons pas vu. Ça s'appelle YK Kuna, c'est de Tiziano Cruz, un artiste andin qui vient un peu dans ce seul en scène retisser, et c'est le moins qu'on puisse dire dans ce spectacle, avec son enfance andine et ses communautés de populations qui ont été oubliées, discriminées, parfois massacrées, et de découvrir ainsi sur ce chemin des Andes et sur le chemin d'une enfance, comment les femmes des Andes, avec leurs artefacts textiles, vous voyez tous ces tissus qu'elles portent sur le dos, faits de cordes et de nœuds. Oui, très codé, mais parle de hiérarchie, de structure, de pouvoir, de vision du monde, dans un monde où le néolibéralisme tente d'effacer, fait plus que tenter d'effacer violemment les traces culturelles et vitales et collectives de ces communautés. C'est la dernière pièce d'une trilogie, ça s'appelle YK Kuna, c'est à voir les 27 et 28 mars au Criquelard, et c'est sur le site du Kai Theater, qui attend toujours de retrouver ses murs, évidemment. Le Kai Theater est en nomadisme pour le moment. KaiTheater.be pour toutes les informations.
Eh bien, merci pour toutes ces propositions qu'on va s'empresser de suivre.
Merci, Elisabeth. On se retrouve nous la semaine prochaine pour d'autres aventures théâtrales.
Ne manque pas, on a quand même une richesse sur nos scènes, il faut en profiter.
Merci Elisabeth, on se retrouve la semaine prochaine donc pour d'autres planches. Belle semaine à vous et à très bientôt.
Bonne semaine. Merci Nico. La constellation. La constelación.